France Culture.
Alors que Donald Trump, son entourage, son administration continuent de savourer leur victoire électorale, politique, symbolique aussi, une série de questions ce soir. Le Trumpisme peut-il conquérir l'Europe? A-t-il gagné pour un temps au moins la bataille culturelle conservatrice? Et l'extrême droite française est-elle soluble dans le Trumpisme? Pour en discuter, pour en débattre même, deux invités ce soir. Justin Weiss, bonsoir.
Bonsoir Quentin.
Vous êtes historien spécialiste de l'histoire politique des États-Unis. Vous êtes fondateur, directeur général du Forum de Paris sur la paix. Et parmi vos publications, on peut citer celle-ci, Histoire du néoconservatisme aux États-Unis, Le triomphe de l'idéologie, c'était en 2008, chez Odile Jacob. Face à vous, Jean-Philippe Tanguy, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes député Rassemblement National de la Somme et président délégué du groupe RN à l'Assemblée nationale. Merci à tous les deux d'être présents ce soir dans Questions du soir.
Mesdames et messieurs, votre président rend un grand service à l'Europe. Il y ramène la vérité et la paix. MAGA et MEGA, ces deux mouvements ne sont pas de simples slogans. Ils représentent une vision qui résonne de manière urgente, non seulement aux États-Unis, mais dans le monde entier.
Laissez-moi vous dire, en tant que personne fière d'être européenne, que le CIPAC a compris avant beaucoup d'autres que la bataille politique et culturelle pour les valeurs conservatrices n'est pas seulement une bataille américaine. C'est une bataille occidentale.
The challenges all around us are really great.
Les défis qui nous entourent sont vraiment grands et graves, et nous devons y faire face, main dans la main, avec les États-Unis. Mais pour ce faire, nous devons abandonner le modèle de développement dépassé de l'Union européenne. Je veux que ce continent retrouve sa grandeur.
Les voix successives de Robert Fico, président du gouvernement de la Slovaquie, de Giorgia Meloni, présidente du Conseil des ministres d'Italie, et de Mateusz Morawiecki, député de Pologne. Et peut-être pour commencer, quelques éléments de définition. On commence avec vous, Jean-Philippe Tanguy. Le Trumpisme, de quoi s'agit-il pour vous ?
Écoutez, c'est sincèrement très difficile de répondre à cette question parce que Trump a des visages très différents quand il est en élection primaire aux États-Unis. Quand on compare le discours qui lui a permis d'émerger dans la première primaire républicaine face aux vieilles familles patriciennes républicaines, les Bush, les évangélistes, bon bref, des familles qui avaient un passif, de mon point de vue, très toxique pour les relations internationales et pour les pays européens, invasion illégale de l'Irak, pratiques religieuses extrêmement discutables, très éloignées de la vision de la laïcité à la française. On avait Trump qui faisait le contraire, donc qui promettait de ne plus intervenir dans les affaires du monde, en tout cas de plus rompre avec le droit international, de faire déjà une campagne sur pas le pouvoir d'achat, c'est pas une mesure équivalente à ce qui se passe en France, mais en tout cas sur la valorisation du travail, de l'industrie, de la remise en cause de la mondialisation. Le premier mandat de Trump a été très différent. D'ailleurs, il a beaucoup déçu les électeurs de la Rust Belt, ces électeurs populaires qui avaient pu faire son élection. Il a été battu et il est revenu sur ce thème-là, notamment sur les problèmes de l'inflation. Et là, on a l'impression qu'une fois encore, finalement, il est très différent dans l'exercice du pouvoir qu'en campagne électorale. Donc, effectivement, il y a une forme de populisme américain, hein, puisque le populisme en tant que courant politique vient des États-Unis, ce qui est peu su souvent en France et en Europe. Une valorisation du travail, des classes moyennes contre Washington, contre les lobbies, mais un exercice du pouvoir qui est très différent. J'ai l'impression que M. Trump multiplie les provocations, en tout cas ce qui paraît pour nous des provocations ou des comportements très éloignés de ce qu'on attend d'un président américain, parce qu'il a des grandes difficultés finalement à appliquer son programme économique. Je pense que là-dessus, il y a vraiment un sujet, parce que la question de l'inflation, qui était très importante aux États-Unis pendant la campagne électorale, a presque disparu de l'actualité et de l'administration Trump.
On reviendra bien sûr sur les questions économiques. Je reste un instant avec vous, Justin Weiss, sur ces éléments de définition. Ils sont hétéroclites, hétérogènes, difficiles justement à cerner et à identifier.
Oui, l'origine du Trumpisme, pour moi, c'est quand même une réaction
économique et sociale et culturelle à la globalisation. En gros, hein, si on prend une vision un petit peu longue, les classes moyennes américaines ont souffert en fait de la globalisation, elles ont souffert de la concurrence avec le Mexique et le Canada, comme par hasard, on est le jour où Trump a rétabli les taxes, ou le lendemain, et surtout avec l'entrée de la Chine à l'OMC. C'est-à-dire que ce qui s'est passé, c'est que l'Amérique en a bénéficié économiquement, mais pas les classes moyennes. Et les classes moyennes se sont vues déclassées, ont perdu les good jobs, qui étaient ceux qui étaient assortis d'une assurance médicale et des bénéfices, etc. Et culturellement, ils se sont sentis mis en minorité par les minorités, si j'ose dire, par l'arrivée d'un Africain-Américain à la Maison-Blanche en 2008. Ils se sont aussi sentis sur le plan international comme étant un peu les dindons de la farce. C'est-à-dire, pendant 40 ans, 60 ans, on pourrait dire le maintien de l'ordre mondial par les États-Unis ou l'hégémonie américaine a profité aux classes moyennes américaines. Il y avait un accroissement du niveau de vie. À partir des années 80, ça commence à s'enrayer et le niveau de vie des classes moyennes, et notamment moyenne inférieure, stagne. Et donc, les Américains commencent à se demander pourquoi est-ce que c'est nous qui payons le prix de l'ordre mondial, c'est-à-dire en termes de trésors et de sang, de ces guerres extérieures. Certaines étant, disons, absurdes ou disons mal orientées. Mais enfin, en gros, c'est la puissance dominante et donc c'est celle qui maintient l'ordre dans le système. Et donc, se disent les classes moyennes, pourquoi est-ce que c'est nous qui devons payer ce budget de la défense et envoyer nos boys se faire tuer pour que l'Arabie Saoudite et la Chine aient ce formidable monde de la globalisation qui a permis leur essor. L'essor de la Chine s'est fait dans le monde américain. Et là, ce que Trump parvient à capté dans les années 2010, c'est ce scepticisme des classes moyennes américaines qu'ils doivent jouer ce rôle impérial et cette idée que le vieux courant isolationniste, America First, qu'au fond, on reste les plus forts, on est moins forts relativement à la Chine et à d'autres qu'auparavant, mais on reste quand même les plus forts. Et donc, faisons jouer ces rapports de force plus directement en faveur de nos intérêts directs, de notre balance commerciale, de notre sécurité, de l'immigration, etc. Et on s'en tirera mieux. Et c'est ça que Trump parvient à cristalliser, à capter. Et donc, le Trumpisme, en matière internationale, en tout cas, c'est ça. C'est le fait de faire jouer des rapports de force, de se désintéresser des valeurs américaines. Trump a une définition de l'exceptionnalisme américain qui est très différente.
De se désintéresser des valeurs américaines ?
De désintéresser de la promotion des valeurs américaines et du maintien des valeurs américaines si les gens vivent dans des... Enfin, les régimes ne comptent pas. Et c'est pour ça, on ne l'a jamais entendu traiter Poutine de dictateur, alors qu'il a récemment traité Zelensky de dictateur. Donc les régimes ne comptent pas. Ce qui compte, ce sont les rapports de force. Et au fond, derrière ça, se dessine... Et ça, c'est le Trumpisme international, disons, qui se dessine maintenant. Ce n'était pas tout à fait le cas. Je suis d'accord avec Jean-Philippe Tanguy sur le fait qu'il a évolué, il a changé, une politique de sphère d'influence en réalité. C'est-à-dire, au fond, la Chine domine dans son étranger proche, comme la Russie. Qu'est-ce qu'elle nous embête, l'Ukraine ? Après tout, si la Russie souhaite dominer, c'est bien son droit. Et la guerre vient de l'expansion de l'OTAN, qui est un point russe, etc. Voilà ce qu'est le Trumpisme pour moi, en tout cas en matière internationale.
Est-ce que le Trumpisme, Jean-Philippe Tanguy, est-ce que le Trumpisme est un mouvement, une idéologie même d'extrême droite ?
Écoutez, je ne pense pas. Je pense qu'en fait, utiliser ce terme fausse la lecture, ne permet pas de le comprendre, permet mal de comprendre aussi, de mon point de vue, l'histoire idéologique des États-Unis. Et d'ailleurs, à mon avis, explique surtout l'aveuglement d'un certain nombre de commentateurs ou de politiciens, d'ailleurs en France, sur la victoire, la première et la deuxième de Trump. Je m'explique. Par exemple, je sens que la gauche française et les gauches européennes ont beaucoup de mal à accepter, c'est comme ça, c'est ainsi, que le régime ségrégationniste américain, qui a subsisté d'une manière très tardive, parce que ça aussi, j'ai l'impression que dans l'inconscient européen, on ne se rend pas compte à quel point la question des droits humains, des droits civils aux États-Unis, des droits aussi des minorités sexuelles aux États-Unis, se posait dans des termes beaucoup plus durs, beaucoup plus violents, beaucoup plus injustes sur le continent américain que sur à l'ouest de l'Europe, évidemment, et en particulier en France. Or, les États ségrégationnistes sont liés au Parti démocrate. Et évidemment, c'est compliqué aujourd'hui, alors qu'on croit qu'il y a une segmentation droite-gauche de ce point de vue, une espèce de représentation du paysage politique américain qui serait le pendant du paysage français et même européen. C'est faux. Et donc, à force de vouloir toujours, comment dire, faire correspondre le paysage américain ou inversement le paysage américain avec le paysage européen, ça ne fonctionne pas. Donc il y a dans le mouvement MAGA, mais avant le mouvement MAGA, le mouvement des Tea Parties, hein, qu'on a oublié, mais qui était un peu la préfiguration de ce qui a permis à Trump d'émerger, oui, il y avait des mouvements liés au suprémacisme, des mouvements liés à la ségrégation,
au racisme.
Au racisme, bah oui, la ségrégation, c'est un régime raciste, à des convictions religieuses, voire messianiques, extrêmement fortes aux États-Unis, qui pour les Français évidemment paraissent complètement aberrant. Je pense que pour nous, ça paraît complètement surréaliste. Il y a une vraie incompréhension du caractère religieux et du rôle du religieux aux États-Unis par rapport à la France. Et je crois que caractérisé par l'extrême droite ne correspond pas à la réalité de ce qu'est Donald Trump. Par exemple, Steve Bannon avait été viré de la Maison Blanche par Trump, c'est dire, parce que justement, Monsieur Bannon n'arrivait pas à rompre avec les mouvements suprémacistes, ou en tout cas à les condamner dans, notamment, je crois, les attentats ou les attaques à Charlottesville, qui avaient posé évidemment des problèmes épouvantables. Donc on voit, pour moi, c'est un peu un aveuglement et c'est un problème de compréhension. Et dernier exemple,
pardonnez-moi, il ne se sépare pas d'Elon Musk qui fait un salut nazi à la tribune.
Oui, alors pour moi, le salut de Steve Bannon était indubitablement un salut fasciste. Pour Musk, je sais pas, c'est pas pour le défendre, c'est qu'en fait, je suis dans l'incompréhension de ce personnage. Bon, c'est quand même un Sud-Africain.
Mais c'est juste pour dire qu'il ne se sépare pas.
Pareil, c'est intéressant. Enfin, intéressant. Il faut savoir que Musk n'est pas de culture américaine. Il est de culture sud-africaine. Il a grandi dans un pays où l'héritage très récent, jusqu'aux années 90, de l'apartheid, évidemment, fait que de notre point de vue, on ne peut pas comprendre Musk si on ne comprend pas d'où il vient. Et le comprendre, c'est pas l'accepter.
C'était pas pour expliquer le signe de Musk, mais simplement pour expliquer cette fois-ci que Donald Trump ne s'en était pas séparé.
Voilà. Et j'en finis sur un point. Par exemple, dans les primaires, les commentaires français, parfois défendant, voulant la victoire de candidats au sein du Parti républicain, qui est en fait plus extrémiste que Trump sur l'avortement, sur le droit international, sur l'économie, tout simplement parce qu'on était tellement aveuglé par l'opposition à Trump qu'on ne voyait pas aussi les candidats qu'il a écartés. Pour moi, c'était le début de l'aveuglement. Et depuis, en fait, les gauches françaises et les commentateurs français ne sont jamais sortis de cet aveuglement et de cette incompréhension.
Pardonnez-moi, Justin Weil, je reviens sur cette notion d'extrême droite. Est-ce qu'elle est pertinente ou non pour comprendre ce qu'est le trumpisme aujourd'hui ?
Il est soutenu par l'extrême droite. Disons que les suprémacistes blancs se reconnaissent et se reconnaissent dans les signaux qu'ils envoient. Ça ne veut pas dire que son gouvernement est un gouvernement d'extrême droite. Il y a quand même beaucoup de gens qui sont contents du rétablissement d'un gouvernement. Quand on voit une photo du gouvernement Trump, enfin de l'administration Trump et de son cabinet, comme on dit, et de son administration, évidemment, on voit la différence avec celle de Biden. Peut-être un point historique là, et je serai.
Vous parlez de la place des minorités dans ce gouvernement.
Oui, de la place des minorités et plus généralement l'attaque brutale sur DEI, c'est-à-dire sur les politiques de diversité, d'inclusion, qui consiste à faire renoncer les universités, les entreprises, etc., à tout ce qui peut ressembler à justement ce travail de diversité, d'inclusion. Or, le passé douloureux des États-Unis sur le plan racial commande quand même qu'on fasse attention à ce sujet. Alors peut-être que les démocrates et la gauche est allée trop loin, mais il est certain que là, il y a une sorte de coup de fouet en retour très 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 fort. Peut-être juste un mot sur démocrates et républicains, parce que s'il est vrai que le parti abolitionniste est le parti républicain, incontestablement, le parti de Lincoln, et que pendant très longtemps, pendant un siècle à peu près, des années 1860 aux années 1960, le parti raciste, en quelque sorte, c'est le parti démocrate dans les États du Sud. Il y a quand même un chassé-croisé dans les années 60, c'est-à-dire que Nixon, avec sa Southern Strategy, c'est-à-dire sa stratégie du Sud, vise à conquérir ces États du Sud, puisqu'il se rend bien compte que les démocrates, eux, se sont lancés dans la défense des droits civiques, les démocrates du Nord, en réalité. Et donc, ce chassé-croisé s'opère peu à peu. Tout le Sud bascule. En 1965, quand Johnson signe le Civil Rights Act, il dit « Nous venons d'offrir le Sud au Parti républicain ». Et c'est ce qui se passe. Et donc, du coup, je nuancerai un peu tout de même ce que vous disiez tout à l'heure, Jean-Philippe Tanguy. C'est maintenant quand même côté républicain qu'on trouve les racistes, c'est trop facile de dire ça, mais disons ceux qui sont le moins intégrationnistes, et ça reste quand même eux, alors que le Parti démocrate est devenu vraiment un parti de minorité. minorité qui ne tolère plus en son sein des gens qui jusqu'aux années 70 et même 80 étaient des démocrates conservateurs. Il n'y avait pas d'alignement, autrement dit, entre idéologie et affiliation partisane. Il y avait des démocrates conservateurs et des démocrates libéraux. Il y avait des républicains libéraux, les Rockefeller Republicans, et des républicains conservateurs. Maintenant, c'est assez homogène, c'est-à-dire c'est vraiment plutôt côté républicain qu'on trouve tous les conservateurs, c'est plutôt démocrate qu'on trouve chez les démocrates qu'on trouve tous les libéraux. Voilà, à cette nuance près, c'est vrai que voilà, le parti républicain est quand même très largement un parti de blancs et en tout cas soutenu plus majoritairement par les blancs et notamment les hommes blancs.
Est-ce que la seconde élection de Donald Trump, Jean-Philippe Tanguy, a fait souffler sur l'Europe, continue de faire souffler sur l'Europe un vent nouveau et notamment un vent d'optimisme parmi les extrêmes droites européennes et au-delà d'ailleurs parmi les diverses droites européennes ?
Écoutez, de toute évidence, oui, vous avez passé des réactions de dirigeants politiques de première importance, Madame Meloni, Monsieur Fico, bon, même si son histoire personnelle est plus compliquée que qu'appartenir à la droite nationale, de toute évidence, oui. Comment vous dire ? Pour moi, c'est une erreur. Voilà, pour moi, c'est une erreur. Chacun pense ce qu'il veut. Chaque parti fait ce qu'il veut dans son pays. Mais je pense que si...
Pourquoi c'est une erreur ?
Parce que l'avenir du continent européen et l'avenir souverain de chaque nation qui la compose, pour ma part, en tant que gaulliste, Rassemblement National, nous sommes pour l'Europe des nations, appartient à chaque peuple. Et il n'y a pas à vouloir souhaiter des ingérences étrangères qui viennent des États-Unis parce que M. Trump aurait été élu et serait mieux que le démocrate. Bon, l'intérêt quand même du Rassemblement National, c'est qu'on a toujours condamné les ingérences d'où qu'elles viennent. Quand elles étaient démocrates, on les estimait mauvaises, et quand elles sont républicaines, on les estime également mauvaises. C'est pas pour ça que c'est pas intéressant. Il peut y avoir des idées qui viennent d'ici ou là, des débats intellectuels qui peuvent naître au sein des démocraties et qu'on peut partager. Évidemment, il ne s'agit pas d'être chacun dans son coin, mais croire que les pays européens peuvent se relever à partir d'une nation étrangère me paraît, quoi de notre point de vue, totalement éloigné de notre idéologie, en particulier du rôle de la France. Par ailleurs, une espèce de méconnaissance de mon point de vue des États-Unis, hein, qu'on voyait déjà sous Bush ou sous les Clinton ou même sous Obama, une espèce d'arrogance culturelle qui croit, on le voit notamment avec M. Musk, qui atteint des niveaux hallucinants, qui fait des commentaires, qui calque des commentaires qu'il peut faire sur la campagne américaine sur toutes les nations européennes. Et je pense qu'il a découvert en Allemagne que l'Allemagne n'était pas les États-Unis et que la France n'était pas l'Allemagne et donc a fortiori pas les États-Unis. Ce qui est intéressant, c'est que même au Royaume-Uni, je vois que M. Farage, et je le félicite, a résisté aux volontés de Musk d'avoir une espèce d'emprise sur son parti réforme UK, justement lui expliquant que non, il y avait des lignes rouges infranchissables dans l'histoire de la culture britannique et anglaise qu'ils avaient franchi aux États-Unis, et notamment la promotion de courants extrémistes, racistes au Royaume-Uni avec lequel M. Farage ne veut pas avoir affaire. Et je crois qu'il a eu raison et M. Musk a voulu le punir. Et j'en finirai là. Je crois que de toute façon, ce qui nous sépare définitivement avec l'océan Atlantique, c'est quand même le rôle de l'argent. Et moi, ce qui m'inquiète dans le deuxième mandat de Monsieur Trump, et peut-être qu'on en reparlera, c'est ce que j'appelle l'extrême argent. Je trouve que dans la tradition américaine de lutte contre les ententes, de lutte contre les trusts, pardon, voilà. On a aujourd'hui un vrai problème de relations malsaines entre le grand capital, les entreprises de la tech et le pouvoir politique. Bon, pouvoir qui c'est un problème qui se pose depuis très longtemps aux États-Unis, mais là je trouve qu'on atteint des niveaux de gémellité et de mélange des genres qui, d'un point de vue d'un Européen, en particulier d'un Français, me paraissent totalement toxiques.
Justin Weiss, est-ce que vous observez vous-même un sursaut de confiance parmi les conservateurs, de divers ordres d'ailleurs, parmi les conservateurs européens aujourd'hui, du fait de cette seconde élection de Donald Trump ?
Oui, ça existe depuis longtemps, c'est-à-dire que les courants politiques dans un pays donné sont toujours influencés par ce qui se passe à l'étranger. On l'a vu multiplier.
Mais là, ça a l'air plus fort que jamais.
Je ne sais pas si c'est plus fort que jamais, parce qu'il y a tout de même des défenses naturelles, et en particulier ces fameuses lignes rouges, et puis l'idée que tout de même, si on est nationaliste, on n'accepte pas tout cru, on ne gobe pas tout cru ce qui vient de l'étranger, en théorie, et on met d'abord en avant ses intérêts nationaux. Je pense qu'il y a aussi des rôles différents, Bannon, Musk et Trump. Trump, je pense qu'il s'en moque, en fait. Fondamentalement, il s'en moque. Lui, ce qui l'intéresse, c'est les États-Unis. Ce qui l'intéresse, c'est Trump, hein, d'abord. Soyons clairs, c'est vraiment ça la première préoccupation de Trump, c'est l'image de Trump. Mais ensuite, au fond, à partir du moment où il peut faire jouer les rapports de force avec des partenaires, obtenir d'eux des choses, pratiquer l'extorsion qu'il pratique régulièrement, etc., au fond, il s'en moque. C'est pas le cas de Musk et Bannon. Bannon, on l'a vu, il l'a fait dès le premier mandat. Il va voir des groupes d'extrême droite et certains, et les plus proche de la des suprémacistes blancs auxquels il appartient lui-même, c'est-à-dire ceux qui sont vraiment la droite la plus extrême, et il essaye de les renforcer. Musk, c'est autre chose. Musk, la tragédie de Musk, qui est un génie industriel et entrepreneurial, c'est que il pense que les recettes qui ont assuré son succès dans le monde industriel, dans le monde de l'ingénierie, etc., Tesla, SpaceX, et pas mal d'autres choses en réalité, sont valides ailleurs. Et donc il pense qu'il peut être très bon pour diriger Twitter, et c'est ça qu'il a embringué dans cette histoire politique très largement, et qu'il peut appliquer à l'État, au gouvernement fédéral américain, les recettes qu'il a, par exemple, appliquées à Twitter, c'est-à-dire on vire 80% des 80%, c'est énorme dans une entreprise, de la main d'œuvre, on demande aux gens qu'est-ce que vous avez fait la semaine dernière, on saisit les serveurs pour pouvoir avoir un moyen de contrôle centralisé sur tout le monde sans avoir besoin d'une armée de fonctionnaires, etc. Et donc, sur la politique internationale, c'est ça. C'est-à-dire qu'il pense être aussi bon sur la guerre en Ukraine que sur la situation intérieure en Allemagne et ailleurs. Et ça fait des dégâts énormes parce qu'évidemment, il est très puissant, très influent. Donc, je pense qu'il y a des visées différentes entre ces différents personnages.
Comment vous avez perçu, Jean-Philippe Tanguy, le discours du vice-président américain J.D. Vance, qui était venu lors de la conférence de sécurité à Munich prononcer un discours fleuve donnant des leçons aux Européens, des leçons de souveraineté, des leçons de liberté de la presse, de liberté de parole, de liberté tout court. Comment vous l'avez analysé et perçu et compris ce discours ?
Écoutez, moi je me suis exprimé immédiatement pour dire que ce discours n'avait pas lieu d'être. Enfin, c'est-à-dire il peut venir s'exprimer, mais il n'a pas à nous donner de leçons. Et je crois que l'effet en fait recherché est totalement le contraire. D'ailleurs, on le voit même dans l'hémisphère américain, puisque j'ai vu au Canada les sondages qui mettaient M. Trudeau... le parti de M. Trudeau au fin fond des sondages est sûr de perdre, a fait une remontée fulgurante, passant de 20 à 38% en quelques semaines, parce que le patriotisme canadien a été réveillé par ses ingérences, tout simplement, c'est normal. Je pense qu'au Mexique, la popularité de la présidente mexicaine est aussi due à ses ingérences. Donc en fait, il y a une réaction simple, et c'est là où on voit que ce sont des gens qui ne comprennent pas des pays qui ne sont pas les leurs, visiblement. Il y a une réaction saine, patriotique, de peuples qui n'ont pas à recevoir des leçons, tout simplement. Même si, sur le fond, on peut avoir des idées qui sont intéressantes. Bon, une fois de plus, être patriote ne veut pas dire refuser le dialogue avec des gouvernements étrangers, avec des intellectuels étrangers, faire des échanges, évidemment. Mais là, c'était la posture qu'il a adoptée, fidèle quand même à une tradition américaine de donner des leçons au monde entier, de pas trop regarder si ça s'applique eux-mêmes, pour moi complètement contre-productive. J'ajoute, c'était de mon point de vue, est quand même inquiétant. Pendant des années, moi, titre personnel, le Rassemblement National a combattu une pensée unique venant de la gauche. Pas une pensée de gauche. Une pensée unique, une pensée prête à penser, facile, s'imposant à tout le monde, qui est très loin, et refusant le débat. Si c'est pour avoir...
Certains appellent ça la bien-pensance, hein, par
ailleurs. Oui, la bien-pensance,
c'est un discours,
oui.
C'est au cœur du discours de Donald Trump également,
d'ailleurs. Oui, exactement. Oui, mais sauf que si c'est pour remplacer ça par une autre bien-pensance venant des droites, ou venant du trumpiste, ou venant du conservatisme, tout ce que vous voulez, ça n'a pas plus d'intérêt. Ce qui est intéressant en démocratie, c'est le débat, c'est l'échange, c'est les faits, c'est débattre sur ces faits, c'est échanger des visions politiques, c'est tolérer l'avis de l'autre. Bon, quand je vois que dans le Washington Post, le propriétaire, M. Bezos, le propriétaire d'Amazon aussi, on revient à l'extrême argent et à la concentration des moyens, veut interdire certaines opinions dans son journal. Comme dans certains journaux de gauche, les opinions de droite sont visiblement interdites, et je ne parle même pas des opinions du Rassemblement National. Je suis contre toute forme de censure. Donc, en toute logique, je suis contre aussi la censure qui vient de M. Vance ou de M. Trump. Bon, je me souviens de M. Sanders, les opinions de Bernie Sanders aux États-Unis avaient du mal à se faire connaître dans certains médias. Donc moi, j'essaie d'être juste, et Marine Le Pen, si vous prenez toute son historique, a toujours défendu des principes, y compris quand ça bénéficiait à nos adversaires. Donc moi, je suis très inquiet de cette espèce de backlash, de ce retour de boomerang, qui aurait après une bien-pensance venant des gauches, une bien-pensance venant des droites. Ce qu'il faut, c'est du débat, c'est du respect des opinions contraires. Et je ne comprends pas comment dans nos démocraties, alors qu'on a des régimes autoritaires à nos portes, on n'est pas capable de tous défendre ce principe simple du débat contradictoire et tolérant.
Comment vous avez vous-même analysé, Justin Vahy, ce discours du vice-président américain ? C'est une sorte d'adresse aux Européens, d'offensive même dans le fond du discours. C'était assez troublant, c'était une série de leçons qu'on nous adressait ?
Oui, alors moi en plus j'ai subi deux discours de la même semaine, puisque le mardi matin, 11 février, Vance parlait au sommet pour l'action sur l'IA au Grand Palais, et il a fait un discours qui mélangeait, disons, l'hégémonisme américain, c'est-à-dire, en gros, on est les plus forts et on compte bien le rester, une série de leçons adressées aux Européens, arrêter de censurer, en gros, contre la censure woke de l'IA, et une mise en garde, ne vous avisez pas de travailler avec la Chine. Bon, c'est déjà pas très agréable. Et quelques jours plus tard, le vendredi, à Munich, là, un discours encore plus extrême, alors là, plutôt sur les pratiques intérieures. Le danger sur votre sécurité ne vient pas de la Russie, il vient de l'intérieur de l'Europe. Et donc, un discours tellement outré qu'en effet, il n'avait pas lieu d'être, et dont on voit aussi les limites, c'est-à-dire que cette vision-là, cette vision nationaliste, qui suscite en retour, en effet, des réactions patriotiques, fait que on diminue l'espace possible de la coopération internationale. Or, on a besoin de la coopération internationale. On a besoin de s'occuper des pandémies, on a besoin de s'occuper du changement climatique. Malgré tout, les catastrophes climatiques vont pas disparaître parce que Trump est là. On a besoin de s'occuper des mouvements de population, des réfugiés, etc. Et donc, il faut un minimum de coopération internationale. Le danger avec la vision du monde qui est celle de Trump, c'est qu'on n'arrive plus à faire ce travail que nous, on essaye d'aider modestement au Forum de Paris sur la paix, on essaye de faire cette coordination internationale de façon assez pragmatique. Et en particulier, si on regarde ce qui s'est passé, il s'est passé quelque chose de particulièrement grave. Si on met de côté toutes les déclarations qui visent essentiellement à créer un news cycle et à distraire les gens, il y a quelque chose
de fondamental. Un cercle
nouveau. Et absolument, c'est la destruction de l'agence d'aide au développement américaine, USAID. C'est 43 milliards de dollars et ils ont détruit pour 58 milliards de budget de cette année et de projets qui existaient. Ce qui, en fait, est très problématique parce que c'était les premiers donateurs, même s'ils ne se sont pas les premiers donateurs par habitant, donc c'est pas les plus généreux. Mais bon, ils donnaient beaucoup, beaucoup d'argent. Et cet argent servait à faire des choses utiles comme l'alerte aux pandémies, l'alerte aux tremblements de terre et aux tsunamis, le soutien vital à certains réfugiés dans certains endroits, etc. etc. Bref, à faire en sorte que la communauté internationale, si elle existe, en tout cas, eux, membres de la communauté internationale, s'occupent des plus faibles et surtout s'occupent de ses propres intérêts. Parce que des réfugiés climatiques, des réfugiés à cause des guerres et du fait que les camps de réfugiés ne sont plus, maintenus en état, etc., des pandémies vont finir par atteindre les États-Unis malgré les deux Beautiful Oceans dont Trump a parlé. Voilà. Et donc, ce que je veux dire, c'est qu'il y a une sorte de contradiction, d'aporie dans cette pensée internationale parce que les rapports de force ne suffisent pas et qu'on est dans un monde interdépendant et qu'il faudra bien un moment qu'il y ait une coopération entre pays qui reprennent.
La voix de l'ancien Premier ministre Dominique de Villepin s'exprimait sur BFM TV le 24 février dernier au sujet de Jordan Bardella.
Monsieur Bardella part le cœur léger à Washington, joli voyage, il arrive là-bas, il pense participer à un meeting et qu'est-ce qui lui est arrivé ? Il a été débordé par l'idéologie qui est la sienne et qu'il porte en France par des gens qui l'ont poussé encore plus loin. Ce qu'il a constaté, monsieur Bardella, c'est que les gens comme lui, et qui ont maintenant 10 ans, 15 ans, 20 ans d'avance aux États-Unis, eh bien, ils en sont à faire le salut nazi. Ça, c'est la réalité de la radicalité dont je vous parle. On a bien vu à quel point ce mouvement ne maîtrise rien, parce qu'il court après des forces extrémistes et ils pensent qu'ils pourront après, une fois le pouvoir acquis. Ils pensent qu'il y aura un ticket retour. Ce que je sais, c'est qu'on est comptable de la conquête du pouvoir.
Est-ce que malgré tout, Jean-Philippe Tanguy, votre mouvement, votre parti court après des forces extrémistes ? On pense à certains sujets, évidemment sur l'immigration, sur le rapport à l'État aussi peut-être. Est-ce que vous vous retrouvez là aussi dans le trumpisme ? C'est ce que laisse entendre Dominique de Villepin.
Non, pas du tout, mais monsieur de Villepin, c'est dommage quand on connaît la qualité de ses analyses sur d'autres sujets, sur le Rassemblement National, comme beaucoup d'élites, hein, qui sont intéressantes par ailleurs, et aveuglées. C'est ce que je disais tout à l'heure sur même la personnalité de Trump. On ne court pas après, on a mis une ligne infranchissable. Le CPAC, on en pense ce qu'on veut, historiquement, c'est les conservateurs américains. Bon, historiquement, le conservatisme est opposé au racisme. C'était le mouvement conservateur anglo-saxon, n'ont jamais frayé, n'ont jamais été liés au racisme. Ils ont même combattu un certain nombre de mouvements racistes.
Ça, c'est le CPAC, je précise, c'est la rencontre chaque année. C'est le fameux. C'est le grand congrès qui rassemble les mouvements conservateurs américains.
Moi, personnellement, Je ne suis pas lié à l'idéologie conservatrice, mais quand on va au CIPAC, on ne s'attend pas à ce genre de choses. Donc quand Jordan Bardella a constaté que ça s'était produit, il est parti immédiatement. Moi, ce que je... Et c'est une ligne infranchissable. Et c'est pour ça que je parle aussi du réaction de Nigel Farage. Ce que je ne comprends pas, c'est qu'en France, tout le monde devrait se féliciter que le Rassemblement National, premier parti d'opposition, ne mette une ligne infranchissable. Et non. Non, non, au contraire, on a l'impression qu'on a presque reproché à Jordan Bardella d'avoir mis cette ligne infranchissable.
Et moi, ce qu'on a reproché à Jordan Bardella, c'est d'avoir découvert ces saluts nazis, alors que à l'époque même où vous aviez reçu en 2018 cet homme-là, ce même homme, il avait fait un salut nazi, vous n'aviez pas condamné l'acte.
C'était pas un salut nazi, là pour le coup, et la vidéo d'ailleurs, ça a été expertisé par l'AFP. Il n'avait pas fait un salut nazi, il avait salué la foule. Là, il a fait ce qui pour moi est de toute évidence un salut fasciste. Il y a un avant, il y a un après. Et M. Bannon, lui-même, aussi parce qu'il a perdu un rôle qu'il n'a plus aux États-Unis, de toute évidence, et c'est ça le regard, c'est pas mon problème, dans une dérive qu'il regarde. Mais je ne comprends pas cette réaction en France. Je ne comprends pas, Mme Knafaud de Reconquête est restée aux États-Unis. Ça n'a pas fait une ligne. Jordan Bardella a mis une ligne infranchissable. D'une manière générale, tout le combat de Marine Le Pen est de différencier le patriotisme. Après, on peut nous condamner, nous combattre sur tout un tas de débats et avoir un débat rationnel. Mais le fait qu'on n'arrive pas en France à reconnaître que le principal parti d'opposition ait mis cette ligne infranchissable et prouve une fois de plus que Marine Le Pen a toujours combattu ses extrémistes, j'avoue que je suis dans l'incompréhension. Donc je vous remercie de me permettre de m'exprimer ce soir. Mais moi, je trouve que Jordan a été... très courageux, certes, mais surtout qu'il a simplement appliqué la ligne de Marine Le Pen.
Justin Vaille, sur le CIPAC, sur ce type d'événement de grand congrès conservateur, quelles sont leur efficacité? Est-ce qu'ils permettent effectivement de fédérer des mouvements conservateurs autour du monde?
Ça n'a jamais été pensé comme un événement mondial. Hein. Ça a toujours été pensé que déjà, faut fédérer les conservatismes américains. Et il y en a beaucoup. Il y a beaucoup.
On a vu défiler l'ensemble des mouvements conservateurs mondiaux, mexicains, européens.
C'est relativement nouveau, ou c'est relativement nouveau qu'on y prête attention.
C'était l'objet cette année, en tout cas.
Oui, absolument. Alors que traditionnellement, le CIPAC, c'est pour rassembler la famille conservatrice. Il y a quelque chose qu'il faut souligner, c'est que le conservatisme américain. Ne ressemble pas du tout à ce qu'il était il y a 10 ans, en réalité. C'est-à-dire que Trump a fait une OPA, non seulement sur le parti républicain, mais les partis sont des réalités assez différentes aux États-Unis et on peut avoir des entrepreneurs qui capturent un parti. Obama avait conquis le parti démocrate à partir de Chicago, de sa base de Chicago, etc. Ça, Trump a réussi à conquérir le parti républicain et en fait à le subvertir. C'était un parti qui était fondamentalement pour l'immigration et le libre-échange, et qui maintenant est fondamentalement contre l'immigration et contre le libre-échange. Le dieu vivant, enfin plutôt non, le dieu passé, le dieu mort des républicains, c'était Ronald Reagan. Maintenant, il n'est plus jamais cité. Quand en 2012, sauf erreur, il y a des primaires républicaines, on demande aux candidats qui était votre le personnage historique que vous admirez le plus, tous disent Ronald Reagan. Mais Ronald Reagan était aux antipodes de ce qu'est Donald Trump. Ronald Reagan était pour une politique affirmée de leadership américain, il était pour la défense de la démocratie. Il était, disons, des rapports complexes avec l'immigration, mais enfin, tout de même, c'est sous son double mandat, notamment 84-85, qu'il y a eu de grandes vagues d'immigration, notamment latino, aux États-Unis. Et surtout, il était pour le libre-échange. Ça a complètement changé la définition du conservatisme. Et donc, c'est pour ça qu'il faut des CIPAC et des conférences comme ça, parce que, voilà, la Heritage Foundation était le héros, donc c'est ce think tank de Washington qui, depuis les années 70, tous les 4 ans, fait une sorte de programme politique pour le candidat républicain, il y a une sorte de coup d'État interne à la Heritage Foundation, et donc a préparé le programme de Trump. Et si on compare ce programme-là, donc Project 2025, avec, par exemple, le Mandate for Leadership pour Reagan en 1980, c'est le jour et la nuit. Donc voilà, donc je pense que c'est important de garder en tête que on parle bien du Trumpisme, que le conservatisme, qu'il y a beaucoup de conservateurs, alors en particulier mes chers, entre guillemets, néo-conservateurs, sur lesquels j'ai travaillé il y a une quinzaine, une vingtaine d'années, sont aux antipodes de Trump, c'est-à-dire aux antipodes de l'isolationnisme, aux antipodes du protectionnisme, aux antipodes de l'aveuglement aux régimes dictatoriaux, etc. Et donc, il y a quand même des tensions très, très fortes.
Comment est-ce que vous analysez, Jean-Philippe Tanguy, ce qui s'est passé dans le bureau ovale vendredi soir, hein, lorsque Donald Trump recevait le président Zelensky, et bien au-delà, d'ailleurs, la façon dont les États-Unis traitent l'Ukraine et l'abandon de ce pays dans un contexte effectivement très très difficile, de plus en plus difficile vis-à-vis de la Russie.
Mais évidemment, c'est une scène choquante. Bon, je pense qu'il est encore trop tôt pour savoir à quel point cet événement s'inscrit ou pas dans une stratégie plus grande échelle américaine dans les négociations que l'administration Trump veut prendre avec Poutine. Je pense qu'on a beaucoup surréagi, je crois, en Europe. Et quand j'entends ce qu'on appelle aux États-Unis l'Easter Eggs, hein, un peu la référence à la fin où il dit c'était de la bonne télévision, moi, je regarde ça avec beaucoup de recul. Ouais. Je me demande à quel point cette scène était prévue, ce que c'était un guet-apens, ce que c'était une stratégie, quel message on envoie au régime russe.
Bon. Pourquoi on a surréagi? C'était tout de même une humiliation, l'humiliation d'un dirigeant européen.
Oui, mais
c'est normal
pas.
Que les dirigeants européens réagissent eux-mêmes.
Je ne sais pas que des gens réagissent, c'est très bien, mais je pense que la diplomatie, surtout quand elle vient des États-Unis, doit être prise avec plus de recul. Voilà, on ne sait pas pourquoi M. Trump s'est comporté comme ça. C'est-à-dire que l'excuse immédiatement donnée, c'est que M. Trump est un voyou, serait un voyou, que ce seraient des gens vulgaires, qui ne seraient pas très intelligents. Bon, je pense que c'est une fois plus sous-estimé M. Trump, qui a gagné deux fois des élections, qui fait, on peut critiquer son action, mais il y a une cohérence dans son action, il y a un programme derrière, et je crois que le sous-estimé ne rend même pas service aux idéologies de ceux qui le combattent. Et je ne sais pas encore pourquoi il a fait ça. Et je pense que ceux qui surinterprètent, surréagissent dans l'émotion, se trompent et, à mon avis, font plutôt le jeu de ce qu'ils pensent combattre. Et nous verrons dans la suite si évidemment cet événement était, comment dire, pas organisé, donc très critiquable, ou si ça s'inscrivait dans une stratégie plus globale. Je ne sais pas. Voilà. Et en tout cas, ce que je sais, c'est que je me méfie toujours de la communication officielle des États-Unis. J'ai commencé l'émission en parlant de l'invasion de l'Irak. Je me souviens que des gens bien propres et bien polissés, qui s'appelaient Colin Powell, qui s'appelait la famille Bush, ont menti à l'ONU, devant toutes les nations rassemblées, devant toutes les caméras du monde, pour justifier l'invasion et la rupture de l'ordre international. C'était les néoconservateurs. Ils ont fait la même chose en Libye, ils ont fait la même chose dans d'autres opérations. Et en fait, aujourd'hui, M. Trump aussi, finalement, l'incarnation finale de ce manque de respect du droit international par les États-Unis. Et ça a fait l'objet, on en revient avec M. Villepin, de peu de condamnation, de peu de compréhension de ce qu'est la puissance impériale américaine, qui ne défend que ses intérêts, avant avec le sourire, maintenant sans.
Justin Weiss, vous êtes en phase. On a trop surréagi en Europe quant à ce qui s'est passé vendredi soir dans le bureau ovale.
Ben non, parce que un dirigeant qui se dans le pays est sous attaque, qui se prend des missiles tous les jours et qui se fait rudoyer comme ça. Bon, c'est moi je pense que c'était un guet-apens et que c'était Vance qui a précisément pris la parole au lieu que se continue l'échange de questions-réponses avec la presse et qui a fondamentalement provoqué Zelensky. Non, ce qui est derrière ça, ce qui est choquant, c'est que Trump ne se soucie pas du tout. C'est très légitime. Si les États-Unis ne veulent plus soutenir l'Ukraine, c'est leur droit. Après tout, c'est eux qui dépensent les milliards, les moyens de renseignement, de transport aérien, etc., etc. pour l'Ukraine. Donc, ils ont le droit. Mais la façon dont c'est fait, avec notamment l'annonce hier dans la nuit de l'arrêt brutal des livraisons, y compris celles qui avaient été faites par Biden, c'est un peu un coup de poignard dans le dos. Donc, il y a en effet quelque chose à analyser. Et moi, il me semble que ça correspond à une vision assez simple, qui est celle de l'exercice des rapports de force et des sphères d'influence, c'est-à-dire que Trump estime que la relation importante, c'est avec Poutine, que Zelensky nous embête. En plus, il a des griefs personnels contre Zelensky, et ça compte beaucoup chez Trump. Les rapports personnels comptent beaucoup, la psychologie compte beaucoup, et qu'au fond, ce qui l'intéresse, c'est la Russie, la Chine, l'Inde, et les faibles, c'est-à-dire l'Ukraine, l'Europe, et d'autres, ne l'intéressent pas, et donc peuvent être passés par perte et profit, sauf s'il y a des profits. C'est-à-dire, sauf s'il y a le deal sur les minéraux, qui est d'ailleurs très curieux, parce qu'on ne savait pas qu'il y avait 500 milliards de minéraux crédits. Enfin, toute cette histoire est un peu curieuse.
Est-ce que ce soit vrai, ça ?
Oui, et je pense qu'il y a beaucoup aussi d'exagération. Je pense que c'est beaucoup pour l'image, c'est-à-dire que Trump apparaisse comme un leader décisif et qui fait gagner des points à l'Amérique. C'est ça qui l'intéresse. Mais au final, c'est quand même une situation très, très triste. Le seul point positif, c'est qu'on peut espérer que l'Europe se ressaisisse et parvienne à remplacer en grande partie les États-Unis à se défendre elle-même.
Merci à tous les deux de ce débat,
merci.
De cette discussion.
Merci.
Justin Weiss, vous êtes historien spécialiste de l'histoire politique des États-Unis, fondateur, directeur général du Forum de Paris sur la paix. Jean-Philippe Tanguy, député Rassemblement National de la Somme, président délégué du groupe RN à l'Assemblée nationale. Merci à tous les deux.
Merci.